Bonjour Jean-Paul Desprats.
Bonjour Jean Petot.
Vous êtes ce que l'on pourrait appeler, je ne sais pas si vous validerez cette expression, un historien aberrant, entre guillemets, mais au sens étymologique du mot aberrant, qui s'écarte du type commun ou du type normal. Encore faut-il s'entendre d'ailleurs sur ce que l'on entend par historien normal. Ça, c'est autre chose. Vous êtes un juriste historien, en fait, puisque, si mes informations sont bonnes, vous avez soutenu une thèse de docteur d'État en histoire du droit, dont on dit que c'est la catégorie la plus prestigieuse du droit, sur un sujet très pointu, le Conseil de conscience, qui a été un organe de gouvernement créé par Richelieu et vous allez corriger et institutionnalisé par Anne d'Autriche, c'est ça?
Non. Alors, le Conseil, il a existé un Conseil de conscience au XVIIe siècle, mais celui qui est vraiment institutionnel, c'est ce qu'on appelle la polysynodie. C'est à la mort de Louis XIV. Quand
c'est là que le régent accepte.
Renvoie les ministres bourgeois pour mettre des aristocrates, et c'est une catastrophe. au bout de trois ans, on doit arrêter l'expérience. Et le Conseil de conscience, c'est celui qui s'occupe des affaires religieuses dans un contexte très compliqué parce qu'on est dans le problème de la bulle Unigenitus, donc du deuxième jansénisme.
Pas un siècle, mais presque la période que l'on va voir. Puis vous avez fait toute votre carrière professionnelle en qualité de cadre dans l'entreprise.
Chez Saint-Gobain.
Voilà, vous avez une œuvre prolifique en tant qu'écrivain et biographe, commencé en 1988 par un premier roman historique qui sera suivi de nombreux autres. Vous nourrissez une passion pour les 17e et 18e siècle, et puis pour vos racines, l'Orouergue et l'Aveyron, vous avez une propriété familiale, ça s'invente pas, on y reviendra, Château Gironde.
Voilà, ça s'appelle Gironde. Et alors, les légendes, mais des écrits du 19e siècle, donc qui sont un peu légendaires, prétendent que c'est de ma forteresse que, par le cours du Lot et puis ensuite de la Garonne, descendaient les Merins de Châtaignier. Et on a fondé, il y a deux châteaux de Gironde qui sont en aval, et que au 13e siècle, les riverains de la Dordogne et les riverains de la Garonne se disputaient comment devait s'appeler l'estuaire, et le seigneur de Gironde qui s'était installé au bec d'Ambès dit: foutez-moi la paix, je donne mon nom à l'estuaire. Mais c'est trop beau pour être vrai.
Ça figure dans une note infra-paginale à la toute fin de votre livre. Voilà. Hein. Bon, j'ai compté, moi, plus de 35 titres dans votre biographie. Donc des sagas historiques, des biographies, Henri IV, Madame de Maintenon, Mirabeau, ou ce que l'on appelle aussi des beaux livres. Et puis, plus original encore, vous êtes l'auteur de 26 dramatiques radiophoniques, de 27 minutes chacune, sur France Inter, dans la remarquable émission Au fil de l'histoire, sous la houlette de Patrick Légibel, et avec une présentation de Stéphanie Duncan. Quand j'aurais indiqué à celles et ceux qui nous regardent ou nous écoutent que vous êtes né à Drancy, dont le nom est indissociable de l'histoire tragique contemporaine de notre pays, on comprendra que cette passion pour l'histoire et ceux qui la font date peut-être de votre toute première enfance. Mais je ne sais pas si vous avez vécu longtemps.
Je n'ai pas vécu à Drancy. Ma mère a accouché par hasard chez sa belle-sœur. Et j'ai dû vivre 48 heures à Drancy. Mais j'y suis revenu souvent. Et je suis né pas très loin de cet endroit extrêmement émouvant, où il y a cette cité est mort Mac Jacob. Moi, je suis très attaché au souvenir de Mac Jacob. Et où il y a ce wagon. C'est un endroit très prenant, un des endroits les plus prenants pour évoquer les malheurs de la chambre.
Alors, nous allons parler de votre tout dernier ouvrage, publié chez Perrin, je le montre à la caméra, en février dernier. Donc, il y a quelques semaines maintenant. Et ce livre, Une histoire des Girondins, c'est un beau bébé de 668 pages. Pardonnez-moi à l'avance, mais on n'aura pas assez du temps d'entretien pour en faire le tour. Alors, on va forcément tailler. Vous allez nous dire pourquoi avoir choisi ce sujet. Mon idée, c'est qu'en fait, on donne envie au lecteur de rentrer plus avant dans le corps de votre ouvrage, tellement il est foisonnant. Alors, ma première question, elle porte sur ce que vous avez nommé le prélude. Nous sommes, je vous cite, le samedi 25 juin 1791 à 22h, On sent le sens du récit. Un imposant équipage recouvert de la poussière de la route vient de s'immobiliser. Je viens de vous lire. Vous citez la grande historienne de la Révolution française, Mona Ozouf. C'est le tableau final, dit-elle, d'une scène cristallisatrice. Alors, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Et pourquoi, d'abord, quels sont les acteurs et qu'est-ce qui va se passer à partir de cet événement?
Bien, c'est la scène essentielle parce que c'est la bascule de la Révolution. C'est Varennes, c'est le roi qui revient de Varennes, le roi s'est enfui. Et il met tout par terre, toute la construction de la Constitution est réduite à zéro. Et il va falloir tout le génie de certains politiciens ou l'habileté de certains politiciens comme Barnave pour essayer de reconstruire quelque chose. Le roi s'est définitivement déconsidéré. Ça avait commencé 2 mois et demi avant, et ça c'est Michelet qui le raconte, ce discrédit de la monarchie, lorsque les tantes du roi étaient parties à Rome pour des raisons religieuses, pour ne pas avoir affaire à des prêtres qui avaient juré la Constitution, puisque le pape avait jeté sa condamnation sur la Constitution. Et là, entre le mois de février 1791 et le mois de juin 1791, le roi avait perdu beaucoup. Il y avait eu des attaques contre la monarchie. Et c'est intéressant parce que ces attaques viennent de ceux qui vont être les futurs Girondins, vient de Brissot, de son entourage, de Le Chapelier. Et ces attaques étaient très importantes contre le roi, puisque, par exemple, on avait dit que le roi, et on est avant Varennes, et c'est une des raisons qui va motiver le roi pour partir, que le roi devient le premier fonctionnaire, donc on retire toute la chape d'honorabilité qui venait de l'Ancien Régime, qui venait
de...
Voilà. Il était le premier fonctionnaire du royaume, mais pire, s'il s'éloignait sans l'autorisation de l'Assemblée nationale, de 20 lieues de l'Assemblée nationale, il était réputé avoir abdiqué. Et ce que Louis XVI a ressenti, c'est que 3-4 semaines avant Varennes, on lui avait retiré son droit de grâce.
Vous dites que c'est ce qu'il a sans doute le plus meurtri.
Voilà, parce que c'était
Saint-Juin.
C'était le droit de grâce, c'était le signe de la toute-puissance royale. C'était de pouvoir pardonner les pires criminels.
Est-ce qu'on peut dire, c'est après l'impression que j'ai eue en lisant ce prélude, que les constituants de 1791 sont désarçonnés eux-mêmes par la tentative du roi au point de remettre en cause le processus engagé d'élaboration de la Constitution? Je vous cite parce que avant qu'il revienne, avant que le carrosse là se gare, revienne le samedi 25, hein, il est parti le 20, le 21, ça commence sérieusement effectivement à s'agiter et le départ du roi est attesté. Et vous dites dans l'enceinte de la salle du manège, juste après qu'Alexandre de Beauharnais, président de l'Assemblée législative, ne confirme le départ du roi, les députés sont comme pétrifiés sur leur banc, et Lafayette dit même dans une contenance morne et abattue.
Exactement, parce que tout est remis en cause. Alors, les événements politiques vont, ça va être dans les heures qui suivent. Par exemple, les monarchistes, parce que quand le roi va revenir, on ne lui redonne pas immédiatement ses pouvoirs. Les 200 députés les plus monarchistes ne reviendront pas à l'Assemblée nationale. Ça, c'est capital. Et donc, sont déportés sur la droite des gens qui, jusque-là, essayaient de limiter les pouvoirs du roi. Barnave. Et puis, Barnave et Lafayette, qui ne s'entendaient pas, vont faire bloc. Voilà, il y a tout un déport de l'Assemblée nationale sur la droite. Et Barnave va, de façon très habile, replâtrer une constitution, mais qui ne va pas tenir. D'accord. Parce que Barnave va quand même réussir à réévaluer les pouvoirs du roi.
D'accord. Malgré ce geste...
Alors, ce qui va aider, c'est que il va y avoir un mouvement... Il y a en même temps un mouvement populaire, le mouvement des sections de Paris. Depuis que... C'est Paris qui s'est... C'est ce qui fait toute la toile de fond. C'est que Paris s'est emparé de la Révolution depuis le 6 octobre 89. À partir du moment où on a ramené le roi, deux ans auparavant, on a ramené le roi de Versailles aux Tuileries, et Paris dirige la Révolution française. Ça sera un des problèmes des Girondins. Mais c'est Paris qui dirige la Révolution française. Et alors, devant cette l'habileté de Barnave qui arrive à faire voter les députés sont terrorisés. Hein, et ceux qui sont vraiment les patriotes opposants, c'est 20% les futurs Girondins, Robespierre, Danton, tous ces gens-là.
Pétion, qui
est le premier qui pense qu'il faut une république à l'époque. Cette idée de république, cette idée. L'idée fugitive, comme dit Bonavus, de république qui va dans, elle est dans les milieux qui ne seront pas les plus extrémistes, puisque c'est eux qui vont être chassés ensuite par les montagnards. Mais c'est dans les milieux autour de Pétion, autour de Brissot, influencé par l'exemple américain, parce qu'il est allé en Amérique, que cette idée va se développer tout de suite après Varennes. Et puis les sections parisiennes vont se démener. Alors il y a des diverses.
Alors on va y venir parce qu'on voit bien qu'il y a des jeux d'influence. Voilà. On va retenir cette première idée que vous nous avez répétée à plusieurs reprises. Un des phénomènes gravitationnels politiques de cette période, c'est que ça va toujours de gauche à droite. L'essuie-glace fonctionne de gauche à droite. Voilà. Et il y a toujours une espèce de cycle qui fait que ceux qui sont à gauche se retrouvent peut-être d'abord un peu au centre et puis après à droite. Voilà. Et le mouvement se fait qu'on va toujours trouver plus à gauche que soi, d'une certaine façon.
Ça va être le drame des Girondins. C'est que les Girondins qui, au départ, sont les patriotes, sont ceux qui sont pour la République. Et bien, petit à petit, ils vont dériver vers la droite et puis ils vont être chassés par les montagnards.
Vous dites que c'est Paris qui fait la Révolution, qui s'empare de la Révolution. Et à Paris, il y a des lieux qui sont encore plus fort que d'autres. Alors, vous évoquez les Cordeliers, mais je voudrais qu'on dise un mot d'un club qui s'appelle les Jacobins, qui est rue Saint-Honoré. Vous écrivez, page 25, que dès le printemps 1791, je vous cite, c'est rue Saint-Honoré que bat le cœur de la Révolution. La foule y est toujours dense. Au parterre, les adhérents payant en cotisation, acquittant un impôt suffisant pour figurer au rang des citoyens actifs, c'est drôlement normé. À l'étage, dans d'étroites tribunes où sont admises les femmes, un public compact, épaule contre épaule, citoyens passifs, dont on va voir d'ailleurs à un moment qu'ils vont devenir actifs, privés du droit de voter, qui interrompt souvent les orateurs de s'écrier. Alors, c'est important. Il faut que vous nous disiez un mot des Jacobins, parce que on a tendance dans le langage courant à opposer Jacobins et Girondins. Aujourd'hui, les Jacobins, c'est les centralisateurs parisiens. Les Jacobins, ce sont en quelque sorte les régionalistes. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le club des Jacobins, eh ben, c'est un lieu où il y a tout le monde. Les citoyens patriotes, Brissot, Pétion, mais aussi Robespierre, mais aussi Marat, mais aussi Danton. Et puis, il arrive même, vous dites, après la soirée du 21 juin 1991, alors que le roi est en fuite, il y en a un qui est un peu inquiet, c'est juste Lafayette, parce qu'il était chargé de le surveiller. Et vous dites, il se pointe même aux Jacobins. Voilà. Alors, c'est quoi ce club? Qu'est-ce qu'on y fait? Quelle est la fonction de ce club?
Alors, c'est le club, c'est la force des idées de la Révolution. Ouais. Ça vient d'un club qui avait été fondé à Versailles, qu'on appelait le Club Breton, qui au départ regroupait des députés bretons. Puis ensuite, c'est devenu le Club des Patriotes.
D'accord.
Et au moment de Varennes, sont patriotes tous les gens qui ensuite vont s'entre-déchirer. Robespierre, Danton, Camille Desmoulins, Pétion,
Fabre-Déglantine,
tous ces gens-là sont patriotes et font partie du club des Jacobins, mais aussi Barnave, mais aussi Lafayette. Et d'ailleurs, quand le club des Jacobins se réunit le deuxième jour de départ du roi, les Jacobins sont virulents, protestent parce que on essaie de faire croire aux patriotes que le roi était enlevé. Alors bon, ça ne tient pas la route. Bon. Et à ce moment-là arrive Lafayette et et Barnave, qui jusque-là se détestaient, qui comprennent qu'il faut faire accord, et ils arrivent bras dessus. Et alors, un discours virulent de Danton en disant les traîtres, etc.
Et Lafayette est auréolé de gloire parce que on l'appelle le héros des deux mondes,
c'est à cause de l'Amérique, ouais, voilà, à cause de l'Amérique, ouais. Et puis parce qu'il est aussi le général commandant de la garde nationale de Paris.
D'accord.
Mais pour revenir sur les Jacobins, ouais. Ce qui est intéressant, c'est que toujours avant Varennes, deux mois avant Varennes, Robespierre a réussi un coup magnifique politiquement. Il a fait décider par un décret que les députés de la Constituante, parce que les 1500 députés de 1789 qui se sont réunis à Versailles pour commencer, il en reste 700. Il y a les 200 dont je vous ai parlé qui sont partis parce qu'on n'a pas rétabli tout de suite le roi à Varennes. Mais il y a eu avant, on en a déjà perdu 500 à peu près qui sont morts ou qui ont démissionné, etc. Parce que ça fait 3 ans que ça dure. Et alors, Lafayette, Robespierre a cette idée que quand on aura fini la Constitution, il faudra élire une nouvelle assemblée.
Oui, parce que là, on appelle sous le régime la Constituante.
Voilà, hein. Voilà. La Constitution est en devenir. On prête serment à la Constitution, mais elle n'est pas finie.
D'accord.
Voilà. Mais et Robespierre a cette idée que tous ces députés élus aux États généraux qui sont devenus l'Assemblée nationale ne pourront pas se représenter.
Le fameux principe
et il a déjà l'idée
de non-éligibilité.
Voilà. Il a déjà l'idée, et alors tout le monde adhère parce que c'est conforme à l'enseignement de Montesquieu. Le constituant, ensuite, les constituants font la constitution, les députés ensuite gèrent dans une assemblée différente.
Pour éviter les conflits d'intérêts.
Et les gens ne voient pas qu'ils se font rouler parce que Robespierre a déjà tout son plan, c'est que par le club des Jacobins, il va diriger intellectuellement la Révolution française. Et c'est son coup de maître.
Ah oui.
C'est son coup de maître.
Et ça conditionne tout le reste, quoi. Alors, par contre, il va mettre un petit peu de temps à parachever, si je puis dire, son plan. Hein.
Qu'il va falloir éliminer au fur et à mesure ceux qui sont des opposants, dont nos futurs Girondins,
exactement,
qui à l'époque sont dans le club des Jacobins.
Ça veut dire, est-ce que c'est ce qui explique que dans la première partie, si je puis dire, enfin, tel un prix, on va y venir parce qu'on les voit apparaître à un moment dans une fameuse turgotine. C'est une scène tout à fait remarquable. Les Girondins, tels qu'on connaît, c'est-à-dire ceux qui vont venir de Gironde d'ailleurs, hein, Vergniaud, Guadet, etc., ils sont pas dans la boucle parce que, par définition, ceux qui vont être élus dans la législative sont des néo-députés.
Oui.
Voilà.
Oui. Voilà. La nouvelle assemblée va être. C'est des têtes entièrement neuves. Et ceci dit, ça ne modifie pas les équilibres au départ, parce que il y a les partisans de Barnave qui ont à peu près 20%. Les patriotes qui encore ne se sont pas dissociés, donc nous avons encore ensemble Pétion, Brissot, Robespierre, dont 20%, mais au milieu, il y a le Marais. Le Marais, ce sont des gens qui sont attachés à la Révolution, mais attachés aux droits de propriété, surtout. Donc c'est une élite. C'est une élite de gros propriétaires terriens qui ont bénéficié de ce grand renversement que créent les premiers mois de la Révolution, qui est la mise à disposition, la nationalisation des biens du clergé. Donc ils défendent leurs acquis. Moi, je connais encore, en 2025, beaucoup de familles en Normandie ou en Auvergne dont la fortune vient de ces achats de biens du clergé. Alors, il faut pas le leur rappeler, mais on le sait, leur fortune vient des rachats de biens du clergé. C'était 35% de la fortune française.
Comme il y a plein de faits étonnants dans votre récit, il y en a un qui m'a interpellé, c'est le marquis de Bouillet.
Hein.
Alors,
oui.
Il s'est réfugié au Luxembourg, donc c'est lui qui a organisé la fuite du roi. Hein. Alors, il écrit le 30 juin 1791, donc 5 jours après la scène inaugurale qui est le retour du roi à Paris, une lettre à l'Assemblée et il revendique l'entière responsabilité de la tentative de fuite du souverain et de sa famille. Il exonère complètement Louis XVI. Pourquoi il fait ça?
Parce qu'il est monarchiste. Alors, Louis XVI...
Il fait passer Louis XVI pour un... pour une marionnette comme mani- oui, qu'on déplace.
Oui, parce qu'il dit c'est moi qui ai tout conçu. Le roi n'était pas d'accord. Il dit même le c'est moi qui ai conçu les chemins et tout ça. Mais alors le roi en partant a laissé une lettre.
C'est ça.
Qui n'est pas nulle parce que il explique sa lettre est une lettre où il tente de temporiser malgré tout les choses puisque il est en deçà de sa dernière grande déclaration politique qui est celle de juin 1789 aux États généraux où il avait déjà fixé les bornes. Alors là il déplace un petit peu les bornes en admettant par exemple qu'il consultera le peuple tous les ans, qu'il admet le fait, ce qu'il n'avait pas admis jusque-là, qu'il y ait une assemblée nationale. Voilà. Et le Bouillet, mais ça ne suffisait pas. La lettre de Bouillet va permettre de continuer le processus de Barnave, parce que personne ne croit à la théorie de l'enlèvement, mais tout d'un coup, c'est Louis XVI n'était pas coupable. Voilà, c'est moi qui ai fait le plan. Je vais demander de venir près de la frontière, pas de passer la frontière. Je vais demander de passer près de la. Alors, qu'est-ce qui se serait passé? On imagine qu'effectivement, Bouillet aurait pris la tête des troupes pour rentrer violemment violemment vers Paris.
Alors, on va évoquer là les fameuses élections législatives du 5 septembre 1791. Si j'ai bien lu, il s'agit d'élire 745 représentants de ce qui va devenir l'Assemblée générale, l'Assemblée législative, pardon. Jaurès, dites-vous, dira plus tard qu'il pèse sur les candidats à cette élection, à cette assemblée, le lourd passif du démantèlement inachevé de la féodalité. Voilà. C'est une très belle phrase, ça. Pourquoi Jaurès dit-il ça? Qu'est-ce qui se passe là?
Alors, c'est dans la nuit du 4 août 89, on a aboli les droits féodaux. Dans un premier temps, abolir les droits féodaux, tout le monde a compris que c'était fini de toute l'essence de tout ce qu'on devait au seigneur parce qu'il avait possédé les terres jadis. Et puis l'assemblée, qui est, comme je disais tout à l'heure, est composée de gens qui sont très très attachés à la propriété,
la propriété privée.
Voilà, la propriété privée. L'assemblée est revenue sur ce principe qui paraissait n'avoir pas de limite, et l'assemblée a décidé que serait quand même remboursable ce qui correspondait véritablement à une cession de terre. On retire tout ce qui était les choses honorifiques, les choses de hiérarchique honorifique. Alors, j'en profite pour dire, vous avez cité Jean Jaurès, pour moi, c'est un des meilleurs historiens de la Révolution française. Plus l'histoire que, socialiste.
Plus que Michelet.
Ah oui, oui. Et vous savez, et puis Jaurès, on peut penser peut-être que c'est un homme sectaire, mais il y a un moment qui, moi, me tire les larmes aux yeux dans Jaurès. C'est quand, au moment du procès du roi, il refait toute la plaidoirie. Il dit, voilà moi comment j'aurais défendu Louis XVI. Ah, oui. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'il aurait sauvé Louis XVI.
Surtout que ça s'est joué. Voilà, ça voilà. S'est joué à une voix.
Voilà. Ça s'est joué. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, oui. Mais là, il fait preuve. Alors, on se dit, Jaurès, c'est une histoire socialiste. Il va nous dire que tous ces gens étaient abominables. Pas du tout. Et par exemple, sur Mirabeau aussi, il dit, ah, si Mirabeau avait réussi, il n'y aurait pas eu il y aurait eu moins de sang dans la Révolution française.
Alors, c'est là qu'on voit apparaître. On va revenir sur les personnalités parce que c'est essentiel. Vous avez un tel talent de conteur et de peintre d'une certaine façon qu'on voit les caractères, on les voit bien. Hein. Mais il y a aussi les groupes. Et alors, j'ai noté cette phrase de Michelet que je voudrais que vous nous expliquiez. C'est une phrase que vous rapportez page 57. Vous dites, Michelet dit, l'humilité sauve les Jacobins, l'orgueil perd les feuillants.
Voilà.
Alors, ça veut dire quoi? Expliquez-nous.
Voilà. Les feuillants, c'est qui? Il s'est passé entre-temps, trois semaines après le retour de Varennes. Je vous parlais tout à l'heure du mouvement des sections de Paris qui était incontrôlable. Et les sections de Paris ont voulu présenter au Champ de Mars, là où avait lieu la fête de la Fédération, avait lieu la précédente fête de la Fédération du 14 juillet 1790, ont voulu présenter à l'occasion du 14 juillet 1791 une pétition demandant la déchéance du roi. Donc c'était alors il y a les gens qui par exemple la première version est rédigée par Danton et Danton est prudent et politique. Il se fait siffler, il est obligé de quitter le Champ de Mars. Et alors ça se finit très mal parce que Pétion qui est maire de Paris appelle Lafayette et on proclame la loi martiale. La loi martiale, qu'est-ce que c'est? Elle a été définie par un décret 8 mois avant. C'est on tire sur la foule après 3 sommations restées sans suite. Et là, il y a une fusillade. Il y a une fusillade parce que des hommes jettent des pierres sur la troupe qui arrive. Et il y a entre 50 et 300 morts. On ne sait pas exactement. C'est toujours comme dans ces grands massacres jusqu'au massacre de 1962 des Algériens à Paris. Quand on est incapable souvent de mesurer le nombre de morts. Et donc c'est après cette nouvelle convulsion qui rajoute quelque chose que les patriotes vont commencer à se scinder. Ces patriotes jusque-là unis et dans la nuit qui suit le 17 juillet 1791, une partie des Jacobins traverse la rue Saint-Honoré et vont s'installer au couvent des Feuillants.
D'où voilà.
Voilà. Barnave.
Voilà. Alors ceux-là sont, c'est un anachronisme et une transposition. On va dire qu'ils sont plus à droite que les Jacobins.
Voilà, voilà. Le déport à droite continue. D'accord.
Alors on arrive à nos fameux Brissotins. Alors on va régler la question tout de suite. Le nom qui est accolé à ce groupe autour de Brissot sont les Brissotins. C'est pas le nom de Girondins.
Le premier nom, on les appellera Brissotins, Rolandistes, oui. Girondistes, avant d'employer le mot de Girondin au moment du procès du roi, au lendemain du procès.
Déjà,
du roi.
On emploie ce mot parce qu'on dit aussi que c'est Lamartine qui a conçu le nom.
On n'emploie pas le mot de girondiste avant 1792.
D'accord.
Hein, jusque-là, on dit les Brissotins parce que c'est Brissotin avec son journal, tout ça.
Mais on dit girondiste, on dit pas girondin.
Les premières occurrences, ça sera girondiste quelque temps, et girondin, ça vient très vite aussi.
Alors, cette histoire qu'on dit que c'est Lamartine qui aurait conçu le nom de Girondin 50 ans plus tard.
Non, dans il existe déjà, mais il l'a popularisé.
D'accord. Donc, Rolandiste et Brissotin, ça désigne la même chose.
Alors, Brissot, c'est l'homme alors, c'est un Américain. Pourquoi un Américain? On appelle Américain ceux qui sont allés en Amérique.
La guerre d'indépendance
après. Il avait l'idée de c'était un peu sur Brissot. Et Pétion sont tous les deux nés à Chartres et ils sont amis d'enfance et ils ont été en partie élevés par le clan d'Orléans, puisque le duc d'Orléans, le père de Philippe Égalité et Philippe Égalité lui-même sont les suzerains de Chartres.
Ils leur payent leurs études. Hein,
Ils leur payent leurs études, ils les introduisent dans la vie. Et alors, il est allé là-bas pour certainement voir les possibilités d'affaires. Et en même temps, il a une démarche pré-tocquevillienne. Il examine ce qu'est la société américaine. Mmh. Et il revient avec cette idée d'une république. Alors, cette idée de république, elle va partir dans tous les sens. Est-ce que c'est, pour les modérés, la république à deux chambres ça sera le cas de Narbonne, de Madame de Staël et tout ça. La république
Madame
à deux chambres...
fille de Necker.
Fille de Necker. Et qui est très importante autour des Girondins, autour de cette naissance des idées, avec son salon. Et la chambre active, la chambre des députés, qui est modérée par une chambre conservatrice, comme le Sénat, c'est toujours quand il y a deux chambres, et comme en Angleterre, il y a la chambre qui est la chambre qui conserve, et où souvent les gens d'ailleurs sont nommés à vie.
Alors, vous dites page 68, on va revenir sur les grandes figures de ces Brissotins et Rolandistes, on va dire pourquoi, mais vous dites que les Brissotins ont en commun quelques idées fortes qui seront un temps les leviers des avancées de la Révolution. Alors, c'est quoi ces quelques idées fortes?
Alors, c'est le libéralisme. Ce sont des... Comment les définir le mieux, ces futurs Girondins? Ce sont des libéraux individualistes. C'est après ce que je trouve comme meilleure définition. Libéraux parce qu'ils vont jeter les bases du libéralisme qui va être le régime du 19e siècle, dans la plus plupart des, dans la plupart des
mais
pays.
Du libéralisme économique. Ouais. Plutôt.
Alors, liberté politique plus liberté économique.
D'accord.
C'est ça, le libéralisme. C'est, mm-hmm. C'est la conjonction des deux. Et puis, individualisme, parce qu'ils vont être toujours, comme ce sont des forcenés de la liberté, ils vont être toujours dans l'impossibilité de s'agréger, de former un parti, et ils vont passer leur vie, par exemple, même à l'Assemblée nationale, à se contredire les uns les autres. Ah ben non, tu as dit ça, non, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas, c'est ce qui va leur manquer toujours, c'est de pouvoir de s'agréger, de former, non pas un parti, à l'époque il n'y a pas de parti, mais de former un groupe cohérent.
Voilà. Pardon pour l'anachronisme, mais c'est le PSU des années 60.
Voilà, non mais exactement.
Alors, avec une limite, voilà. Le PSU n'étant pas du tout libéral du point de vue économique, ce débat permanent, on privilégie le débat, la discussion, la dispute presque, la disputation, à la construction d'un projet collectif.
Voilà. Alors, mais il y a des idées en commun, une défense forcenée de la liberté. D'ailleurs, par exemple, la Révolution a appauvri Paris. Il y a des problèmes de subsistance. Ça revient très souvent dans mon livre parce qu'il y a des manifestations, mais très violentes, surtout de femmes devant les épiceries. Enfin, c'est des moments assez terribles. Et eux s'opposeront toujours à ce qu'on fausse le mécanisme de la liberté économique, c'est-à-dire qu'on ait un contrôle des prix, ce qu'on appelle le maximum.
Qu'on administre l'économie.
Voilà. Et leur principale défaite, trois semaines avant leur chute, c'est que le Robespierre, qui voit bien qu'il faut tenir le peuple par... Robespierre qui est tout aussi attaché au droit de propriété, Danton aussi, tout aussi, parce que c'est une révolution de bourgeois. Mmh. Bon, mais ils savent mieux y faire, bon, parce qu'ils vont accepter le maximum, ils vont accepter, par exemple, que la garde nationale, il n'y a pas que des gens qui payent les impôts, donc ils vont donner des avancées mineures, là je caricature un peu, et surtout Robespierre et Danton vont savoir faire avec les sections du peuple de Paris, ce que les Girondins ne savent pas faire. Les Girondins seront dans des salons. Leur sociabilité est une sociabilité du 18e siècle des Lumières.
On va faire le pont. Alors je dis quand même un mot parce que ça c'est quand même amusant sur Brissot. Ses adversaires, il le loue pas. Il y a un mot, un néologisme s'appelle brissoter. Oui. Ça veut dire voler.
Oui, brissoter. Alors c'est sur les droits intellectuels. C'est parce que il a. Alors Brissot, c'est une carrière absolument extraordinaire. Donc le voyage en Amérique, un exil plus ou moins forcé en Angleterre, où il va fonder un journal. Il va fonder un journal français à Londres, le Lycée. Et
il a quel âge à la Révolution?
Oui, il a 35 ans. D'accord. Tous ces gens sont jeunes. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Hein,
Ils sont d'autant plus jeunes que la règle de la non-éligibilité va faire aussi monter. Alors, il y a un couple quand même. Vous voyez de qui je veux parler. Donc, il faut à tout prix que vous nous parliez. Ce sont les époux Roland. Jean-Marie Roland de la Platière.
Oui.
Et Manon, en fait, Jeanne-Marie Flippon, c'est ça?
Flippon.
Vous qualifiez ce couple de singulier.
Voilà.
Et vous ajoutez, il s'essaiera sans désemparer d'accomplir l'impossible synthèse de l'idéalisme selon Rousseau et de l'utilitarisme selon l'encyclopédie. Ça, c'est très intéressant. Oui. Parce qu'on voit bien les prolégomènes, j'allais dire, un peu de leur démarche politique. Elle a 37 ans, en 1791.
Mais lui, il a 25 ans.
Et lui, et ils se sont mariés en 1780. Quand Manon a eu 20 ans. Et en plus, vous dites, page 71, ils ont 25 ans d'écart, mais il fait plus vieux que son âge. Alors, est-ce qu'il est exact ou inexact de dire que des deux, c'est quand même elle qui va prendre la lumière?
Bien sûr. Alors, c'est un couple extraordinaire. Elle est une des femmes les plus extraordinaires de la Révolution, mais ce sera également une de celles qui va faire capoter les entreprises girondines, parce qu'elle est péremptoire. Elle est très intelligente.
Elle a un sacré style. Hein.
Elle a une plume. Elle a une plume extraordinaire. Et elle a des idées sur le journalisme. Par exemple, c'est elle qui, avec Louvet de Couvray, qui sera un de ses protégés. Mmh. Le Louvet de Couvray, c'est à l'époque l'auteur du feuilleton qui a le mieux marché à la fin de la Révolution, le chevalier de Faublas.
Il a un drôle de destin. Parce que voilà. On ne va pas spoiler, mais...
Ouais, mais c'est le seul qui va s'en sortir. Un des seuls qui va s'en sortir en quittant Bordeaux sous un tas de fagots.
Il part dans le Jura et ensuite, c'est pas rien, ça, quand même. Bon. Mais alors, tous les deux, d'ailleurs, vous dites qu'ils ont une espèce de relation.
Ah, ben oui, non, mais parce que, comme elle est
amoureux d'elle, mais.
Oui, mais elle est très belle. Alors, elle aura surtout un grand amour qui est Buzot, qui est de l'Eure-et-Loire, mais elle est sensible au charme féminin. Au charme masculin. D'accord. Et quand, par exemple, elle va accueillir le beau Barbarou qui arrive de Marseille, et elle va l'appeler l'Antinoüs. L'Antinoüs de la Gironde. Ouais. Et donc, c'est une femme absolument remarquable qui a une vie. Elle a failli être religieuse. Son père, elle a été élevée par un père à moitié débauché qui était un grand graveur. Et ses lettres sont admirables. Ses mémoires qu'elle écrira en prison, le culot qu'elle a, parce qu'on va la mettre en prison, elle va arriver à sortir. On va la remettre en prison. Et alors, elle va tenir ce salon qu'elle tient dès avant la Révolution, rue Guénégaud, à l'hôtel de Londres, et où les gens se précipitent alors qu'il y a juste sur la table un sucrier et une carafe d'eau. Ah ouais. Et elle tient les gens toute la soirée. D'accord. Avec ce sucrier et cette carafe d'eau. Et à l'époque, dans ce salon, il y a Robespierre, mais elle a des détestations. Et par exemple, une détestation physique de Danton. Elle l'appelle le cyclope. Et elle va empêcher, et on va y revenir, parce que le principal échec des Girondins, qui n'était pas si loin du pragmatisme de Danton, c'est de ne jamais avoir fait un accord avec Danton. Danton, c'était le contraire de l'idéologie dure de Robespierre. Danton, c'était l'homme qui était prêt à tous les pragmatismes, qui a réussi à mobiliser l'armée. C'est celui qui permet Valmy. Voilà. Et cet esprit pratique, ce type de l'improvisation, du dynamisme, elle va le détester. Et il n'y aura jamais d'accord possible.
Et vous dites que c'est une sorte de rejet physique, c'est parce que le côté un peu monstrueux de Danton.
Oui. Ah non, mais comme elle est sensible au charme des hommes, elle trouve que c'est l'ogre de la Révolution.
C'est ça.
Alors que Danton en joue, quand son discours, quand il est élu substitut.
En tous les cas, Danton montre un sens politique. Voilà. Juste une anecdote, mais le fait que il est ministre de la Justice.
Oui.
Et puis, il comprend, il est 40 jours.
40 jours, pas plus.
Et puis, il comprend qu'en fait, ça va se jouer à l'Assemblée. C'est plus tard, on est en 92. Hop, il quitte le ministère, ce qu'il anticipe.
Alors que Roland se maintient, qui est dans le même gouvernement, puisque c'est le gouvernement du 11 août, le lendemain de la chute de la monarchie. Roland... c'est sa femme qui lui demande de se maintenir, et alors il va se maintenir dans des conditions épouvantables, ce qui fait qu'il va devoir démissionner 2 jours après l'exécution du roi, le 23 juin 1793.
Alors, on arrive à nos Girondins stricto sensu, si je puis dire, au sens d'originaire de la Gironde. Hein. Alors là, il y a une scène qui est tout à fait remarquable. Hein. Vous nous les présentez sur le quai de l'Estuaire, un petit matin de la fin de l'été 1791. Vous dites, il a fait très chaud cet été-là. Bon, alors ils sont très différents. Ils sont dans une turgotine, c'est une sorte d'Uber du temps passé.
C'est le grand Turgot qui avait amélioré les routes. Turgot grand ministre.
C'est les bus Macron, la turgotine. et vous dites, ils partent là. Alors, il y en a qui sont aussi à côté du cocher. Enfin, voilà. Oui, bon. Oui. Et vous dites, ils partent pour accomplir leur fulgurante et tragique carrière. Voilà.
Exactement.
Alors, il y a un quatuor. Alors, j'ai pas dit un quarteron, hein. J'ai dit un quatuor. Vergniaud, Guadet, Jansonnet et Ducos.
Et Ducos. Hein. Ducos est tout jeune, il vient de se marier. C'est un chien fou qui est toujours dans les pattes de Vergniaud.
Alors, vous savez qu'à Saint-Émilion, on dit encore Guadet. Hein.
On dit Guadet.
Oui, voilà. Oui, voilà, hein.
Bon, alors, écoute.
Alors, il y a 5 autres noms. Grangeneuve, Barenne, Lafond de la Beda, Journioux-Aubert et Servières.
Ce sont les députés de la Gironde. Ce sont les députés de la Gironde. Alors, Grangeneuve est un élément incontrôlable. Alors, je raconte l'histoire, la folie de Grangeneuve.
Ouais, allez-y, parce voilà, que ça, c'est voilà, une,
c'est
je une, raconter
c'est une
que...
des histoires les plus folles de la Révolution. Ouais. Grangeneuve qui voit qu'on n'arrive pas à, passez-moi l'expression, d'équiller le roi. On est en août, début août 1792. Il voit que ça patine. Et alors, il va voir un de ses opposants. Oui. Alors, c'est un de mes compatriotes. Il vient de l'Aveyron. C'est Chabot. Chabot, qui est un drôle de personnage aussi, qui a été moine. Il a été moine à Rodez, mais déjà, il était tellement virulent que l'évêque de Rodez, Monseigneur de Castelhill, l'avait empêché de prêcher.
D'accord.
Et alors, Chabot... alors, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses? Et Grangeneuve, qui est... C'est une espèce de folie patriote, une espèce d'enthousiasme incroyable. Dit, écoute, c'est simple, tu vas me tuer. Et on va dire qu'il y a eu un complot manipulé par le roi. Et l'autre, dans l'enthousiasme aussi, accepte l'idée. Et toute la soirée, c'est vers le 7 ou 8 août 1792.
Du côté des guichets du Louvre.
Voilà, du côté des guichets. Grangeneuve va se promener en attendant le coup de feu.
C'est sacrificiel, quoi.
Et l'autre ne va pas oser tirer. Et Madame Roland, revenons à Madame Roland, Madame Roland va faire un dithyrambe de Grangeneuve en disant, mais quel homme formidable, parce que Madame Roland, tous les exemples viennent de la vie des hommes illustres de Plutarque. Il faut être digne des héros de l'Antiquité.
C'est pour ça que quand on voit le comportement de certains, on en aura d'autres comme ça, on comprend que Lamartine les ait considérés un peu comme des pré-romantiques, parce que certains sont aveuglés par les passions quand même.
Voilà, voilà l'enthousiasme. Surtout dans le cas de Vergniaud, il y a peu d'improvisateurs dans la Révolution. Par exemple, il y a Danton. Danton, c'est l'improvisateur de génie à l'Assemblée, et Vergniaud. Robespierre, lui, demande une semaine pour faire un discours. Il lèche son discours qui va être admirable, qui va être plein de formules assassines, etc. Mais ce sont des gens qui préparent les discours. Alors que l'improvisation comme ça... Tous ces gens qui arrivent dans la Turgotine, ce sont des avocats.
Mais c'est ça. Vous dites en plus qu'ils viennent de Bordeaux. Bon, c'est pas parce que vous présentez ce livre dans le cadre de la librairie Mola, mais faut quand même dire que Bordeaux a une place à part à l'époque.
Voilà.
Vous dites que c'est quasiment une capitale.
Et alors, il y a un aspect de Bordeaux qui est capital, c'est les colonies. C'est les colonies. Plus qu'à Nantes, la première cité esclavagiste, à Bordeaux, il y a la conjonction du négoce et de l'arme... Armer les bateaux, l'armement.
Oui.
Et donc ça va compter énormément. Et un des travaux, alors voilà une chose assez emblématique de la pensée girondine, ça va être l'attitude qu'ils vont avoir, parce que au même moment tout se passe. La révolte d'Haïti commence. Juste après après Varennes, donc
ça va faire l'objet d'un rapport de Jean Sonnet.
Voilà, Jean Sonnet qui voilà.
Il y en a un autre qui s'occupe de la Vendée.
C'est Jean Sonnet qui s'occupe de la Vendée, et c'est Ducos qui va faire le rapport Ducos, c'est une grande famille de négociants. Ses parents l'ont d'ailleurs envoyé se former à Nantes.
Il y a une rue à Bordeaux qui s'appelle la rue Théodore Ducos.
Et donc, c'est lui qui va faire sur cette campagne. Le problème de la révolte, c'est qu'on comprend très bien que il y a trois catégories dans les colonies. Il y a les blancs, les planteurs, les blancs, et il y a les mulâtres, qui aspirent à être des libres de couleur, mais qui n'ont pas encore les droits civiques. Et puis, il y a les esclaves. Et donc, c'est comme dans le problème de la Société des Amis des Noirs. C'est très, très important, tous ces mouvements autour de la Révolution. Il faut savoir que 20% de la fortune nationale en France vient des îles, à l'époque. On n'a pas idée de ça, mais c'est quelque chose de très important. Et le libéralisme des Girondins va aller jusqu'à obtenir, pour les libres de couleur, pour les mulâtres, qu'ils soient des libres de couleur, donc qu'ils jouissent des sociétés, mais ils ne feront absolument rien pour les esclaves. Voilà, ils ne feront rien. C'était déjà le problème qu'il y avait la Société des Amis des Noirs, où on voulait faire disparaître la traite. Alors c'était une idée un peu comme dans la case de l'oncle Tom, c'est-à-dire que si le bon colon entretient bien sa famille d'esclaves, qu'il les traite bien, ils vont se reproduire et ils vont travailler parce que la sucrerie dans les îles, ça dévore une main-d'œuvre considérable. Et on va arrêter la traite, c'est-à-dire d'aller rafler des esclaves en Afrique. Mais il n'est jamais question d'abolir l'esclavage, parce qu'on sait que sinon toute la production de sucre péricliterait.
Alors, progressivement, vous le dites bien, va s'imposer une idée qui est une idée de Brissot, qui est l'idée d'une guerre pour remuer la nation. Et ça, on va dire que ça court à partir du début de l'année 1792. Hein,
même avant, à l'automne 91, c'est l'idée qu'il a, puisque le roi est suspect, même après cette constitution qui a été adoptée. Mm-hmm. La première discordance, c'est qu'on dit le roi n'a pas à accepter la constitution, puisque c'est le peuple qui est souverain et qui lui donne une constitution. Mais Barnave, l'habileté de Barnave, c'est de dire oui, mais si on veut remettre le roi en selle, il faut qu'il accepte la constitution. Donc le roi accepte la constitution. Et ensuite, il y a toujours une suspicion sur le roi. Voilà. Et alors, l'idée de Brissot au départ, c'est comme il y a sur les frontières, se sont massés tous les officiers français aristocrates qui ont émigré. Donc, il faut chasser ces émigrés. Et il faut que le roi les mette en demeure, et donc qu'il y ait une opération de police qui n'est pas encore une guerre, qui est une opération de police pour les chasser, et que le roi prenne nettement position contre les émigrés. C'est ça le prolégomène de l'idée de guerre.
Et pendant ce temps-là, il y a des contacts aussi avec le beau-frère du roi. Qui est donc le père de Marie-Antoinette. Pour essayer de faire en sorte que y ait au moins une neutralité.
Et puis alors, petit à petit, cette idée de la guerre, c'est ça qui est très intéressant, va évoluer vers aller aider les patriotes belges ou les patriotes savoyards ou les patriotes niçois qui demandent la liberté. Donc, on va passer d'une guerre qui est une opération de police à une opération idéologique.
Correspond à un moment où Michelet dit d'ailleurs les partis deviennent des religions.
Voilà.
Ça veut bien dire qu'il y a ce poids désormais prégnant d'une vision politique, on pourrait dire de représentation politique divergente.
Voilà. Et alors là tout va un peu s'embrouiller, puisque le roi va appeler comme ministre de la guerre Narbonne, le beau Narbonne. Narbonne Lara, qui est l'amant de Madame de Staël. Ils ont deux enfants ensemble.
Ah oui.
Donc c'est cette frange qui est entre Barnave et les patriotes, c'est cette frange de la chambre, toutes les idées qui se diffusent dans le salon de Madame
de Staël.
De Staël. Le régime avec les deux chambres, etc. Et Narbonne va avoir. Alors Narbonne est très très lié à la famille royale parce qu'il est certainement. Et la ressemblance physique est étonnante. Le fils de Louis XV.
C'est ça.
Il est né à Colorno. Colorno, c'était le Versailles des ducs de Parme. Chez la seule fille de Louis XV qui a été mariée, Madame Élisabeth, qui avait épousé le duc de Parme. Et autre marque de ce qu'il a un rôle à part, c'est, je parlais au tout début de l'entretien, de l'exil de mesdames filles de Louis XV en février 1791, Madame Victoire et Madame Adélaïde,
sœur de Louis XVI.
Voilà. Et qui les conduit à Rome, c'est Narbonne.
D'accord. Voilà. Donc c'est une sorte de. Voilà. On peut dire qu'il est demi-frère du roi.
Il est l'oncle du roi.
Oui, pardon.
Il est l'oncle du roi. Et lui, il a l'idée d'autre chose. C'est toujours les compromis de Madame de Staël. Il a l'idée, ah oui, le roi, il faut que le roi regagne du prestige, donc il va faire une guerre de parade. Le roi prendra la tête des armées, et il chassera, il ira un petit peu plus loin, il chassera les émigrés, mais il va faire une guerre de parade qui va lui permettre de regagner de la popularité.
Toujours est-il que la guerre a lieu, enfin déclaré, le 20 avril 1792, voilà. Et vous dites, elle commence mal. Il y a une succession de revers. Hein.
Alors, préalablement, s'est passé quelque chose de très important en mars, c'est que le roi, ayant perdu, sous la poussée des patriotes, ayant perdu tous ses ministres feuillants les uns après les autres, s'est trouvé fort dépourvu, et qu'il a sur le conseil de Dumouriez, alors qui est un personnage central qui arrive comme un chien dans un jeu de quilles dans cette affaire, il a constitué un cabinet dans lequel sont rentrés,
c'est ce qu'on appelle les ministres Brissotins.
Voilà, les Brissotins sont rentrés. Brissot ne rentre pas, mais rentre donc Roland. Également le ministre des Finances. Voilà. Donc, le roi va se retrouver, au moment où se déclare la guerre, avec cette espèce de cohabitation. C'est quasi une cohabitation. Alors, ce sont des scènes surréalistes. Hein. Le conseil a lieu deux fois par semaine aux Tuileries. Et pendant le conseil, le roi lit les gazettes anglaises. Mais en même temps, il pose des questions qui sont toujours des questions très intéressantes. Le roi est un homme intelligent. Et Roland va dire à sa femme, mais c'est un brave homme, après tout. Et elle, non, tu te laisses avoir. C'est quelqu'un d'abominable. Il faut
le ressort. Voilà.
Et jusqu'au 12 juin, la déclaration de guerre est du 20 avril, et jusqu'au 12 juin, le roi aura ce ministère, Brissotin, qui est un ministère d'opposition, et c'est une lettre écrite par Madame Roland, qui est la lettre de démission, qui est une lettre très insultante pour le roi. Et le roi renvoie ce ministère.
C'est ça. C'est le 13 juin.
D'autant que la guerre a commencé mal, voilà, comme vous venez de le dire. Ça a été une impréparation. Pourquoi cette impréparation? C'est que tous les officiers sont sur le camp, ils sont émigrés.
Et Dumouriez, il le fait exprès d'être un mauvais stratège ou il est vraiment mauvais? Parce que vous dites ici, il est responsable d'un certain nombre de...
Ah oui. Alors, il n'est pas encore responsable de la guerre. Le responsable de la guerre, c'est Lafayette, Rochambeau et Luckner.
Donc, rôle est assez trouble.
Voilà. Alors, Rochambeau et Luckner sont très vieux. Et c'est Lafayette qui a un rôle extrêmement trouble, parce que Lafayette, là aussi, ayant fait beaucoup d'opposition à la monarchie, toujours par cette espèce de passage à droite, Lafayette n'a plus qu'une obsession, c'est de sauver la monarchie. Et Lafayette va avoir des mouvements, une lettre qui est très insultante qu'il va envoyer à l'Assemblée nationale. Mais là aussi, ce qu'on peut retenir de cette époque, et qui m'a marqué, moi, quand j'écrivais ce livre, c'est que tout est toujours possible. Par exemple, Lafayette qui insulte l'Assemblée nationale, qui vient à Paris et qui se conduit déjà comme un conspirateur, qui explique que si on touche un cheveu du roi, il reviendra avec toute son artillerie et ses canons. Alors Lafayette est mis en accusation. Le cas Lafayette passe à l'Assemblée nationale le 8 août 1792, 48 heures avant l'écroulement de la monarchie.
C'est le 10 hein, que la déchéance est proclamée.
Les deux tiers, on est à 48 heures de l'écroulement de la monarchie, les deux tiers des députés absolvent Lafayette. Donc tout est toujours possible.
Et ça se passe, d'après vous, ça se passe comment et pourquoi? C'est les capacités rhétoriques de tel ou tel acteur?
Oui, et puis
il y a des jeux en...
Et puis il y a des
plaques tectoniques qui bougent.
La masse inerte du marais.
Le marais
a 60% des députés.
C'est ça.
Voilà. Et le marais va glisser à gauche, subtilement, hein, pas massivement, dans le procès de Louis XVI, sous l'influence de Barrère.
Alors, avant d'arriver au 10 août, qui est la fameuse journée fondamentale, qui est celle de la déchéance, il y a le 20 juin. Là, il se passe des choses le 20 juin. Vous dites qu'il y a deux jours, là. 20 juin, 10 août. Qu'est-ce qui se passe le 20 juin?
C'est capital. Parce que le 20 juin, c'est un des mouvements des sections de Paris. Ouais. Et les sections de Paris demandent à manifester pour l'anniversaire du jeu de paume. Le serment du jeu de paume du 20 juin 1789. Donc, on est trois ans après. Et d'aller planter un arbre de la liberté sur les terrasses des Tuileries. Pétion, qui est maire de Paris, qui a un rôle assez trouble dans toutes ses affaires parce que il tient à sa popularité. C'est un homme qui tient à sa popularité, n'empêche pas la, la manifestation. Et la manifestation dégénère. Les Girondins qui sont à l'Assemblée nationale, au moment où on leur annonce que la manifestation est en train d'envahir le château du roi, les Tuileries, n'envoient pas dans un premier temps de députés pour s'opposer. Le roi est assez joue bien la partie ce jour-là parce que le roi ne se laisse pas faire. On lui demande l'abrogation de deux vétos hein, sur la religion, hein, sur un camp de fédérés sous Paris.
Oui, oui.
Il refuse de céder, il dit c'est pas le jour, mais il se conduit, il accepte de prendre de se coiffer du bonnet phrygien et surtout. Les historiens le remarquent pas souvent. Il accepte de boire un vin qu'on lui tend sans que personne l'ait goûté, ce qui est contraire à tous les usages de la cour. Il aurait pu être empoisonné ce jour-là.
Ouais.
Et donc cette irruption, c'est le surgissement du peuple. Tout d'un coup, le peuple envahit le château du roi, ce qui s'était jamais. Et c'est ce jour-là que les Girondins prennent peur. C'est ce jour-là que les Girondins prennent peur. Nous sommes le 20 juin. Alors, je vais voir des épisodes extraordinaires. 20 juin, 7 juillet, le baiser de l'Amourette. Alors, ça, c'est un des grands moments de la Révolution. L'Amourette est un curé qui, tout d'un coup, monte à la tribune, se met à pleurer et dit « Mais il faut qu'on s'entende tous, sinon on va à la catastrophe. » Et tout le monde s'embrasse. Et on va chercher le roi qui arrive avec des larmes, qui vient à l'Assemblée. Et nous sommes... Nous sommes le 7 juillet, nous sommes à 33 jours de la chute du trône. Et les Girondins ont d'autres, à ce moment-là, manœuvres qui sont quand même très, très, très suspectes. Par l'intermédiaire d'un peintre du roi qui s'appelle Bose, ils proposent au roi de revenir. Ils ont une conversation avec le roi, de revenir sur les vétos, on vous soutiendra, le trône ne tombera pas. Les Girondins ont peur. À partir du 20 juin.
Mais vous dites, c'est étonnant, voilà. Parce que voilà. Depuis Varennes, ils volent la
déchéance. Ils n'ont pas arrêté de pousser.
Les Girondins ont obtenu ce qu'ils voulaient depuis Varennes. L'enthousiasme, doublé d'un invincible optimisme, les avait conduits depuis 8 mois, en ordre dispersé, vers leur but, la chute de la monarchie. Mais ils allaient devoir maintenant payer le prix de leurs derniers terribles atermoiements. Puis cette phrase... Qui résonne à dire comme une prophétie, et c'est à présent le malheur qui allait les rassembler.
Exactement.
Voilà. Exactement. Alors, bon, on est obligé de malheureusement d'aller beaucoup plus vite. Alors, la chute du roi, c'est la déchéance. Alors, on parle d'abord de suspension, hein, c'est
oui,
ça.
Suspens.
Hein.
Alors, ils ont une manœuvre absolument incroyable. Vergniaud, c'est là où on voit leur hésitation. On est le 11 août au matin. Vergniaud arrive à faire le mot qui n'a pas été. Prononcé au moment de Varennes à faire voter la suspension du roi, mais qu'est-ce qu'il rajoute à la stupéfaction de tout le monde? C'est qu'il faut nommer un tuteur au dauphin.
Oui, c'est ça.
Alors, ça, personne ne comprend rien, et ça, c'est le signe de la panique des Girondins parce qu'ils voient tout de suite ce qui ils anticipent ce qui va se passer.
Mais à plusieurs reprises, on les prend presque en flagrant délit de faux pas politiques. Enfin, on comprend qu'ils vont avoir qu'ils ont du mal à faire être de taille face à Robespierre.
Voilà,
ça, c'est sûr.
Et puis alors là, ce qui va vraiment qu'ils vont continuer à exercer le pouvoir pendant 8 mois encore, c'est eux qui vont arriver. Alors, comment ils exercent le pouvoir, c'est qu'ils arrivent à attraire le marais jusqu'au printemps de 1793. Ça. Mais déjà, la grande faille, c'est le procès du roi,
oui, mais il n'y a pas déjà une pardon. Un premier séisme qui est terrible, ce sont les massacres de septembre.
Ah, les massacres
alors,
de septembre.
Là, on est entre le 2 et le 6.
Voilà.
Certains historiens, 92, hein. Certains historiens disent que ça va jusqu'au 7. Là, il y a une bataille de chiffres, vous en parlez tout à l'heure.
Oui.
On parle de 1300 morts à Paris et simplement 150 en province. Mais il y a un débat pour savoir qui a autorisé ou pas. Hein. François Furet a une thèse. Puis il s'appelle Frédéric Blüch,
oui,
c'est ça?
C'est le fils de Blüch, historien de Louis XIV.
Oui, qui a fait un travail de recherche. Et il dit, nul n'a vraiment organisé la tuerie. Ça, c'est en 1986, la monographie de Blüch. Nul n'a vraiment organisé la tuerie, mais nul non plus n'a su ou voulu prendre les mesures utiles pour l'arrêter. L'idée d'épurer la nation des traîtres a été dans l'air très tôt, dès décembre 1791, sur les premières rumeurs de guerre. Il y a quand même, alors ça va s'accentuer forcément avec Robespierre et la terreur de la Convention montagnarde, mais cette idée de la pureté, et vous dites, il y a des chiffres incroyables, on parle de 320 000 personnes à épurer, enfin...
Oui, c'est le chiffre que donne Marat, et que Danton, parce que...
Et Pétion n'est pas loin non plus de cette statistique-là.
Oui,
320 000, c'est les Khmers rouges.
Voilà, non, le 2 septembre, c'est un des moments les plus incroyables. Tout ce qui se passe entre le 10 et le 20 septembre, le 10 août et le 20 septembre, c'est l'histoire prend un coup d'accélération fabuleux parce que le 2 septembre, vous avez le même jour que le jour des massacres, vous avez le grand discours de Danton sur allons tous à la frontière. Donc voilà, c'est le même jour, le même après-midi quand commencent les massacres dans Paris, et personne ne peut dire on ne voit pas les massacres parce que les charrettes pleines de corps ensanglantés circulent.
On va chercher les gens dans les prisons.
Des gens vont être massacrés pour rien. Des gens qui ont des dettes de jeu. Il y a une hystérie totale. Et là, les Girondins ne sont pas très courageux. Faut dire, par exemple, à commencer par le ministre de l'Intérieur, à commencer par Roland. Et Roland, dès le lendemain des massacres, dit il faut tirer un voile sur tout ça. Ce qui est quand même assez terrible, c'était quand même une démission de ses responsabilités.
Alors, on arrive à un autre moment qui vous avez lu, je pense, récemment le remarquable ouvrage d'Emmanuel de Varesquiel, Il nous fallait des mythes, sur la bataille de Valmy, 20-21 septembre 1792. Alors, c'est d'ailleurs assez extraordinaire puisque sur ces deux dates, sur ces deux jours, il y a d'un côté Valmy au plan de la guerre, et puis de l'autre la convention,
la proclamation
de la République. Alors, cette bataille de Valmy, on va vite passer dessus, malheureusement, mais elle est aussi passée à la postérité à cause de la phrase de Goethe qui assiste à l'affaire. D'aujourd'hui date une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. Bon, c'est pas rien. Oui. En réalité, on sait que cette bataille elle n'a pas vraiment eu lieu, d'une part. Et puis, enfin, je raccourcis. Mais enfin, en tous les cas, les troupes de Brunswick étaient quand même un peu à plat.
Alors, on a accusé les prunes trop vertes.
C'est ça.
il y avait une dysenterie terrible
dans la dysenterie.
Le terrain était particulièrement boueux. C'est un échange de tirs d'artillerie. Et c'est quand Brunswick dit « Nous ne nous battrons pas là », il se retire. Voilà. Mais Brunswick était contre l'opération. Il voulait déjà prendre ses quartiers d'hiver dès le mois de septembre.
Pourquoi dites-vous que cette bataille elle arrive trop tard pour la Gironde?
Oui, parce que elle serait arrivée plus tôt. Les Girondins seraient encore dans le dynamisme qu'ils avaient au mois de juin. Ils avaient
ce sont des bellicistes,
jusqu'à un certain point.
Robespierre était plutôt méfiant vis-à-vis de la guerre.
Il était contre la guerre. Alors qu'il deviendra ensuite l'archange de la guerre en 1793 et 1794. Mais ces très mauvais débuts de la guerre, l'armée française a été complète. Tout le monde, l'Europe le voyait, parce que quand on sait que, par exemple, dans le cas de Dillon, les premiers jours de la guerre, ce sont les propres soldats qui vont massacrer leur chef. Donc, ça a discrédité la Gironde. Et cette bataille, ensuite, arrive trop tard. La vraie bataille qui arrive 30 jours plus tard, c'est Jemappes. Le sommet de l'art de Dumouriez. Dumouriez ne s'entendra jamais avec les Girondins. Il s'entend avec Danton, et Danton va le traîner comme un boulet.
Alors, on va devoir terminer, mais je veux pas qu'on passe sur un point qui, moi, alors là, m'a pour le coup... instruit vraiment, c'est la méfiance de la Gironde, Girondin, à l'égard de l'emprise de la foi. Alors, c'est un aspect qui est peu connu. Vous citez, page 379, une parole de Vergniaud que je trouve tout à fait étonnante pour l'époque. Je le cite : la raison nous suffit, nous n'avons ni besoin de la nymphe de Douma, ni du pigeon de Mahomet. On dirait du Retailleau. Non, mais peu importe, mais vous écrivez. Vous écrivez ceci, c'est intéressant comme tout, un net anticléricalisme uni à peu près tous les affidés de la Gironde, oui. Vous nous avez dit tout à l'heure la passion du débat, activée sans nul doute par l'affiliation de la plupart d'entre eux à des loges maçonniques de différentes obédiences. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est excessif de dire que les Girondins étaient plus anticléricaux que les montagnards ou pas ?
Ils sont anticléricaux, ils sont souvent athées.
D'accord.
Ils sont souvent athées et ils n'ont pas le sens politique qu'auront Danton et Robespierre. C'est au moment où Cambon, qui est un montagnard, qui aurait pu s'entendre avec les Girondins. C'était un homme d'argent, c'était un industriel du textile. Et au moment où Cambon, qui est athée, veut qu'on arrête de salarier les prêtres, alors que c'était la base de la constitution civile du clergé, de la nationalisation des biens, il dit qu'il veut la messe, la paix. Et il est approuvé par les Girondins, alors qu'il y a un magnifique discours de Danton qui est « Vous n'allez pas... » Excusez-moi, mais vous n'allez pas mettre le bazar dans les campagnes où tout le monde... Il y a une phrase de Danton qui est formidable. Le citoyen a besoin d'un prêtre pour rendre le dernier soupir.
Ah, c'est presque du Clémenceau. Voilà. Quand Clémenceau dit, on va pas tuer pour les inventaires.
Voilà, exactement. Exactement. Ouais. Alors que Danton est prêt à tous les pragmatismes. Quand il va se remarier, quand il va épouser Louise Joly, trois mois après, elle va exiger qu'il y ait un prêtre. Et alors lui va, oui, je peux même me confesser. Voilà. Danton, c'est le pragmatisme.
Parce que, vous voyez, d'un côté, on a tendance à dire que la doctrine, le dogme serait chez les montagnards.
Voilà.
En réalité.
Non, c'est le pragmatisme. Ils ne sont pas plus croyants les uns que les autres. Ouais. Mais Danton et Robespierre voient bien que si on se met à pourchasser les prêtres, c'est la Vendée multipliée.
Voilà. on doit malheureusement s'arrêter. Alors, il faut que le lecteur, la chute des Girondins, leur proscription, les fins tragiques, toute la partie, comment ils vont finalement être 21 à être exécutés. Hein,
Les autres qui vont être exécutés en province. Ça, c'est le procès des Girondins
ça,
à Paris.
Ça, c'est Paris. Voilà. Hein, et ils sont, alors avec un procureur Chaumette qui laisse rien passer, les allie les uns après les autres, et ils sont... exécuté quelques jours après Marie-Antoinette.
Voilà. Mais c'est le début de la terreur.
La fin de Madame Roland, c'est terrible. Le suicide de son mari, le 10 novembre 93, deux jours après. Bon, on a dit Saint-Émilion.
Alors, et puis ceux qui repartent dans la Gironde.
Oui, c'est ça. Voilà. Ceux-là qui sont cachés dans des conditions incroyables.
Épouvantable, puisqu'à la fin, on retrouvera le corps de certains dévorés par les chiens.
Ouais, c'est ça. Voilà. Une dernière expression, parce qu'il nous reste peu de temps. C'est à la toute fin de votre livre, vous avez une expression qui est, vous dites une humeur, vous parlez d'une humeur girondine.
Oui.
Qu'est-ce que c'est alors, l'humeur girondine ? On est au cœur de votre propos. Qu'est-ce que c'est l'humeur girondine ?
Une humeur girondine, c'est toutes les qualités que Lamartine prête aux Girondins, c'est-à-dire une modernité, par exemple sur le rôle des femmes. Pétion, alors que Robespierre ne supporte pas qu'il y ait une seule femme qui prenne la parole, Pétion fait des processions de femmes, des clubs de femmes. Il y a la séparation de l'Église et de l'État. C'est la modernité.
Vous dites que c'est aussi une raison qui prime par-dessus la passion et la démagogie.
Voilà. Ouais. Et ça c'est ce qui fait vraiment la césure et où on voit la différence, c'est le projet de constitution de 1793 qui est rédigé par Condorcet. Et c'est la différence entre le bien commun, c'est la différence d'Aristote. Permettez-moi de terminer sur quelque chose d'élevé. La différence d'Aristote, le bien commun, c'est le bien, c'est celui de Robespierre, c'est-à-dire c'est le bloc entouré de vertus, c'est décidé comme ça. Et le bien en commun, dont parle Condorcet, c'est le bien auquel chacun peut apporter suivant ses capacités, suivant sa volonté, suivant son consentement. C'est le bien qu'on construit. Et c'est ça, les Girondins par rapport aux montagnards.
Ça donne toute la modernité aussi de votre livre.
Voilà.
Merci, cher Jean-Paul Desprats.
Merci à vous.
L'histoire des Girondins chez Perrin. Voilà, merci.